Lecture des lettres des pères du désert, une émission proposée par Hélène.
Connaissez-vous les pères du désert? Ces premiers pères de l'Église qui vécurent essentiellement en Égypte, en Palestine, en Syrie et en Russie. Depuis quelques mois, nous vous proposons de partager avec nous leurs lettres, adressées le plus souvent à leurs moines et à leurs contemporains. Ces lettres ont gardé encore aujourd'hui toute leur vitalité et leur chaleur. Poursuivons cette grande œuvre avec les conférences de Jean Cassien, plus particulièrement orienté sur le combat spirituel entre les passions et les vertus. Celui-ci naquit en City en 365. Aujourd'hui, nous poursuivons les entretiens de Jean Cassien, particulièrement sur la prière et sur ce fameux verset que nous pouvons imprimer profondément dans notre cœur. Mon Dieu, venez à mon aide. Hâtez-vous, Seigneur, de me secourir. J'en suis encore à la lutte contre les vices. La chair me tente et essaye, à la faveur du sommeil, de ravir mon consentement, pour empêcher que le feu ennemi me brûle et consume les fleurs de chasteté délicates et suaves. Je m'écrierai, mon Dieu, venez à mon aide. Hâtez-vous, Seigneur, de me secourir. Je sens les aiguillons de la convoitise apaisés et refroidis dans mes membres les ardeurs de la chair, pour que cette vertu acquise, ou plutôt cette grâce de Dieu persévère en moi longtemps, toujours. Je dirai, mon Dieu, venez à mon aide, hâtez-vous, Seigneur, de me secourir. La colère, la cupidité, la tristesse me harcèlent et me troublent. Une force fatale m'entraîne à déroger à la douceur que je me suis proposée comme un idéal aimé. De peur que le trouble de la colère n'engendre en moi l'amertume et le fiel, je gémirai du fond de l'âme, mon Dieu, venez à mon aide. Hâtez-vous, Seigneur, de me secourir. Je suis tenté de dégoût, de vaine gloire et d'orgueil. La négligence et la tiédeur des autres me causent une secrète et subtile complaisance. Pour que ne prévale pas cette pernicieuse suggestion de l'ennemi, je dirai d'un cœur tout contrit, mon Dieu, venez à mon aide, hâtez-vous, Seigneur, de me secourir. J'ai conquis la grâce de l'humilité et de la simplicité, et triomphé par une continuelle componction de l'enflure de la superbe. Mais je crains que le pied de l'orgueilleux ne m'atteigne, et que la main du pécheur ne m'ébranle. L'élèvement de la victoire peut me percer d'une blessure plus profonde. De toutes mes forces, je crierai, mon Dieu, venez à mon aide, hâtez-vous, Seigneur, de me secourir. C'est en moi une effervescence de distractions sans nombre, de toutes sortes, aucune stabilité. La force me manque, pour réfréner l'éparpillement de mes pensées. Il m'est impossible de prier sans être traversé de vaines images, de souvenirs des paroles dites ou entendues, de ce que j'ai fait, de ce que j'ai vu. Mon âme ressemble à un désert aride et je me sens incapable de produire la moindre pensée spirituelle. Pour être délivré de cette désolation, d'où ni larmes ni soupirs n'ont pu me faire sortir, je pousserai nécessairement ce cri « Mon Dieu, venez à mon aide, hâtez-vous, Seigneur, de me secourir. » Mon âme a retrouvé sa direction. Mes pensées ont pris consistance. Allégresse du cœur, joie ineffable, transport de l'esprit, tous ces biens me sont venus avec la visite de l'Esprit-Saint. C'est en moi comme une source débordante de pensées spirituelles. Grâce à une illumination soudaine est venue du Seigneur et d'amples vues me sont ouvertes sur les secrets les plus augustes qui m'avaient été jusqu'alors entièrement cachés. Pour mériter de demeurer longtemps dans cette lumière, je dirai et redirai avec grande application, « Mon Dieu, venez à mon aide. Hâtez-vous, Seigneur, de me secourir. » Les démons m'assiègent de terreurs nocturnes. Les esprits immondes me harcèlent de leurs fantômes. L'excès de l'épouvante va jusqu'à m'ôter tout espoir pour mon salut et ma vie. Je chercherai un refuge dans ce verset, comme au port de salut, et je m'écrierai de toutes mes forces, « Mon Dieu, venez à mon aide, hâtez-vous, Seigneur, de me secourir. » Les consolations du Seigneur m'ont rendu la vie. Sa présence m'encourage et je me sens comme entouré d'une multitude innombrable d'anges. Ceux que je craignais auparavant, plus que la mort, et dont le contact ou même simplement l'approche suffisait à me glacer d'horreur dans l'âme et dans le corps, c'est moi maintenant qui ose les rechercher pour la lutte et les provoquer au combat. Pour garder longtemps cette constance et surnaturelle vigueur, je crierai encore de toutes mes forces. Mon Dieu, venez à mon aide. Hâtez-vous, Seigneur, de me secourir. Ainsi ce verset doit être notre constante prière, dans l'adversité pour en être délivré, dans la prospérité pour y être maintenu et préservé de l'orgueil. Où qu'il soit, l'occupation continuelle de votre cœur, au travail, dans vos divers offices, en voyage, ne vous lassez pas de le répéter. Soit que vous mangiez, soit que vous dormiez, dans tous les assujettissements de la nature, méditez-le. Mon Dieu, venez à mon aide. Hâtez-vous, Seigneur, de me secourir. Cette pensée vous deviendra une formule de salut qui non seulement vous gardera contre toutes les attaques des démons, mais encore vous purifiera de tout vice et de toute impureté terrestre, et par là vous élèvera jusqu'à la contemplation des choses célestes et invisibles, à cette ardeur ineffable de prière que si peu connaissent d'expérience, que le sommeil vous ferme les yeux sur ces paroles, tant qu'à force de les redire, vous preniez l'habitude de les répéter même en dormant. Qu'elle soit, au réveil, la première chose qui se présente à votre esprit, avant toute autre pensée. Dites-les à genoux, au sortir du lit, et qu'elle vous accompagne ensuite en toutes vos actions sans vous quitter jamais. Vous les méditerez selon le précepte de Moïse, assis dans votre maison et marchant par les chemins, en dormant et en vous levant. Vous les écrirez sur vos lèvres, vous les graverez sur les murs de votre maison et dans le sanctuaire de votre cœur, en sorte qu'elles vous accompagnent comme votre unique refrain lorsque vous vous prosternerez pour l'oraison et quand ensuite vous vous relèverez pour suivre le train ordinaire de la vie, comme votre constante prière. Oui, que l'âme retienne incessamment cette parole. Tant qu'à force de la redire et méditer sans trêve, elle est acquise la fermeté de refuser et rejeter loin de soi les richesses et les amples avoirs de toutes sortes de pensées, et que restreinte ainsi la pauvreté de cet humble verset, elle parvienne, par une pente facile, à la béatitude évangélique qui entre toutes à la primauté. Heureux les pauvres en esprit, parce que le royaume des cieux est à eux. Devenus pauvres de cette pauvreté éminente, on accomplira la parole du prophète. Le pauvre et l'indigent loueront le nom du Seigneur. De fait, quelle pauvreté, ou plus grande ou plus sainte, que celle d'un homme qui se sait dépourvu de tout moyen et sans force aucune, et sollicite de la largesse d'autrui le secours dont il a besoin chaque jour, qui voit que sa vie et son être ne se soutiennent à tout instant qui passe que par la divine assistance, et se proclame à juste titre le vrai mendiant du Seigneur, en criant vers lui tous les jours d'une voix suppliante. Pour moi, je suis un pauvre, un mendiant, mais Dieu est mon soutien. Aussi Dieu lui-même l'éclairera-t-il de sa lumière pour le faire monter à la science multiforme de son être. Et il se rassasiera de la vue des mystères les plus sublimes et les plus cachés, selon ce que dit le prophète, les montagnes élevées sont pour les cerfs, et les hérissons trouvent un refuge au creux des rochers. Ce texte convient bien à l'idée que nous exprimons. Quiconque persévère dans l'innocence et la simplicité ne nuit et n'est à charge de personne. Content de sa simplicité et d'elle seule, il ne désire rien de plus qu'un abri qui le préserve de devenir la proie de ses ennemis. Il est devenu comme un hérisson spirituel qui trouve asile et protection sous la pierre dont parle l'Évangile. C'est-à-dire que protégé par le souvenir de la passion du Seigneur et la méditation incessante de notre verset, il échappe à toutes les embûches et à toutes les attaques de l'ennemi. Ce sont ces hérissons spirituels dont il est dit au livre des Proverbes. Les hérissons, espèces faibles, font leur nid dans les rochers. Qu'y a-t-il en effet de moins fort qu'un chrétien, de plus infirme qu'un moine? Non seulement les moyens lui manquent de venger ses injures. Bien plus, il n'a pas même le droit d'en concevoir la plus légère émotion, fût-elle muette et purement intime. Que l'âme s'élève de la crainte à l'espérance, à l'amour du Père. Trois choses rendent consistant un esprit dissipé. Voyons le moyen de fixer notre cœur. L'éveil, la méditation, la prière. L'assiduité et l'application continuelle à ces trois exercices établissent l'âme dans une inébranlable fermeté. Celle-ci pourtant ne s'acquiert point si l'on ne s'adonne encore à un travail continu, non par un motif de cupidité, mais pour les besoins sacrés du monastère, car c'est là le moyen de s'affranchir des inquiétudes et soucis de la vie présente et de rendre possible l'accomplissement du précepte de l'apôtre, prier sans relâche. Celui qui ne prie que lorsqu'il est à genoux, prie bien peu, mais celui qui, à genoux, s'abandonne à toutes les distractions, ne prie pas du tout. Aussi faut-il se mettre, avant la prière, dans les dispositions que l'on veut avoir en s'y livrant. C'est une loi fatale que les dispositions de l'âme dépendent alors de l'état qui a précédé, et nous la verrons ou s'élever vers les hauteurs du ciel, ou s'abîmer vers la terre, suivant les pensées auxquelles elle se sera précédemment arrêtée. Il reste acquis cependant que l'ignorance des lettres n'interdit à personne l'accès de la perfection et que le défaut de culture n'est pas un empêchement à acquérir la pureté du cœur et de l'âme. Tous ont un moyen court pour y parvenir. Il suffit que par la sainte méditation continuelle de ce verset, ils gardent saine et entière leur application à Dieu. Dieu est le seul qui fasse le bien sans y être invité par la crainte ou par l'espoir d'une récompense, mais pour le seul amour de la bonté. Le Seigneur a tout fait pour soi-même, dit Salomon. Dans la vue de sa bonté, il prodigue l'abondance de tous les biens, aux dignes et aux indignes. Ni les injures ne le lassent, ni les iniquités des hommes ne le peuvent émouvoir de douleur. Bonté indéfectible, immuable nature. Si donc quelqu'un veut tendre à la perfection, parti du premier degré qui est celui de la crainte, état proprement servile, nous l'avons indiqué, et duquel il est écrit, « Lorsque vous aurez fait tout ce qu'on vous aura commandé, dites, nous sommes des serviteurs inutiles. » Il s'élèvera par un progrès continu jusqu'aux voies supérieures de l'espérance. Celle-ci ne se compare plus à la condition d'esclave, mais à celle de mercenaire. L'espérance, en effet, attend la récompense. Certaine d'être pardonnée, et sans crainte du châtiment, consciente d'ailleurs des bonnes œuvres accomplies, elle poursuit le prix auquel Dieu s'est engagé. Mais elle n'est pas encore parvenue à ce sentiment du Fils, qui, se confiant en l'indulgence et la libéralité paternelle, ne doute pas que tout ce qui est à son Père ne soit également sien. Le prodigue de l'Évangile n'ose plus même y aspirer après qu'il a perdu, avec le bien de son Père, jusqu'à son nom de fils. « Je ne suis plus digne, s'écrie-t-il, d'être appelé votre fils. » Voyez, il a envié les gousses que mangeaient les pourceaux, c'est-à-dire le mets sordide du vice, et on lui refusait de s'en rassasier. Alors il est rentré en soi-même. Touché d'une crainte salutaire, il s'est pris d'horreur pour l'immondicité des pourceaux. Il a redouté les tourments cruels de la faim. Ses sentiments font de lui, en quelque sorte, un esclave. Mais songeant au salaire dont on paye les mercenaires, il convoite leurs conditions et il dit « Que de mercenaires chez mon père, on le pain en abondance, et moi je meurs de faim ici. Je retournerai vers mon père et je lui dirai « Père, j'ai péché contre le ciel et devant vous. » Je ne suis plus digne d'être appelé votre fils. Traitez-moi comme l'un de vos mercenaires. Cependant, le Père a bondi à sa rencontre. Cette parole d'humble repentir que dicte la tendresse, il l'accueille avec plus de tendresse encore. Non, il ne veut pas accorder à son enfant des biens d'une moindre valeur, mais lui faisant franchir immédiatement les deux degrés inférieurs, il le restitue dans sa dignité de fils. Et nous aussi, hâtons-nous de monter, par la grâce d'une indissoluble charité, à ce troisième degré des fils, qui regardent comme étant à soi tout ce qui appartient à leur père. Méritons de recevoir en nous l'image et la ressemblance de notre Père des cieux. Alors, à l'imitation du Fils véritable, nous pourrons proclamer « Tout ce qu'a mon Père est à moi ». Parole dont le bienheureux apôtre se faisait l'écho pour nous, pour les appliquer lorsqu'il disait « Tout est à vous ». Et Paul, et Apollo, et Céphas, et le monde, et la vie, et la mort, et toutes les choses présentes et les choses à venir, tout est à vous. Prochain rendez-vous, nous évoquerons avec Jean Cassien comment passer de la crainte servile à l'amour divin.
C'était les lectures des Pères du désert, une émission proposée par Hélène.